Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand n'est jamais autant lui-même que lorsqu'il décortique pour nous une grande énigme de l'histoire, comme il s'apprête à le faire dans quelques minutes, dans les quelques minutes qui viennent même sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. L'énigme en question a passionné, tenu en haleine nos arrière-arrière-grands-parents. Rendez-vous compte, plus de 300 livres publiés sur le sujet, près de 15 000 articles de presse, des romans, des poèmes, des pièces signées des plus grands, Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Peter Handke, un film remarquable de Werner Herzog en 74, un autre de Peter Zehr 20 ans plus tard. J'ai envie de dire, n'en jetez plus, comme l'a écrit Goloman, le cas Caspar Hauser est le roman policier le plus passionnant de tous les temps.
Alors si nos auditeurs ont un avis sur la solution de l'énigme, je ne peux que les convier à nous le faire savoir via, évidemment, Internet, c'est le site d'Europe 1.
Et oui, avec plaisir. Et puisque vous parlez d'Internet, Julia, laissez-moi saluer toutes celles et tous ceux fidèles qui téléchargent l'émission et nous valent ces remarquables scores de podcast.
Mais oui, pardon. Pas facile à dire.
Merci à toutes et à tous.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En 1828, dans le petit royaume prospère de Bavière. À l'époque, Nuremberg est une ville très calme et très heureuse, dont le nom est vierge de tout ce qui viendra l'entacher plus tard. La cité des maîtres chanteurs de Wagner n'a pas 40 000 habitants. Il faut imaginer ces habitants en leudenhout et culottes de peau. Elle conserve les trois quarts de ses vieilles maisons Renaissance, à toit pointu, à colombage, comme dans un vieux décor de Faust. Partout, des fleurs à profusion, des accents de musique populaire, des tavernes où la bière coule à flot, bref, l'Allemagne aimable que l'Europe aimait. 5 heures sonnent au clocher tout proche sur la place du Suif, dans l'ouest de la ville, en ce 26 mai 1828. C'est un lundi de Pentecôte et la journée a été magnifique. À présent, le soleil décline et la lumière devient fine. Vous savez, c'est cette lumière dorée qui rend les maisons fleuries encore plus belles. Et là, rentrant d'une taverne, il y a deux braves artisans, ils s'appellent Weichmann et Beck, ce sont des artisans, l'un est maître cordonnier, l'autre maître bottier, et ils voient sortir d'une ruelle, la ruelle s'appelle la rue de la Fosse aux Ours, un pauvre garçon qui leur dit « Hé les gars, il a 15 ans, ce gamin environ, il est blond, bouclé, les yeux candides, il est habillé très simplement ». Avec une veste grise, une culotte longue et des demi-bottes. Et je dis une culotte longue parce qu'on est encore à l'époque où on porte les culottes, vous savez, à l'ancienne. Il a l'air complètement perdu et il va tendre à nos deux artisans deux lettres qui sont adressées à monsieur le... Enfin, l'une, la première est adressée à monsieur le capitaine commandant le 4e régiment de chevaux légers. Et voilà ce que dit cette lettre. « Très honoré monsieur le capitaine. » Il y a un côté naïf d'emblée. « Je vous envoie un garçon qui voudrait servir fidèlement son roi et qui l'a demandé. Ce garçon m'a été confié en 1812, le 7 octobre, et je suis moi-même un pauvre journalier. J'ai moi-même, un journalier c'était un travailleur agricole, vous savez, j'ai moi-même 10 enfants, j'ai moi-même, à chaque phrase, assez de peine à me tirer d'affaire et sa mère m'a confié l'enfant pour son éducation, mais je n'ai moi-même pas pu questionner sa mère et je n'ai pas dit au tribunal que le garçon m'a été remis. Ça c'est très important, notez bien ce détail. Alors bon, la lettre est tout de la même eau, hein. C'est d'une naïveté confondante. Et ça se termine par ces termes. Il n'a pas un centime sur lui et comme je n'ai rien moi-même, si vous ne le gardez pas, vous pouvez le dresser ou le pendre à la cheminée. Sous-entendu, comme on pendait les jambons pour les faire fumer. Vous voyez, il y a quand même un côté assez naïf, certes, mais aussi assez cynique dans cette lettre. Donc, cette première lettre est écrite en gothique, ce qui est très habituel dans l'Allemagne à l'époque. Mais elle est suivie d'une seconde, qui elle est écrite en écriture romaine et qui est censée avoir été remise à cette espèce de mystérieux tuteur en 1812 par la mère du garçon. Le problème, c'est que c'est écrit sur le même papier et c'est écrit avec la même encre. Vous voyez un peu la maladresse. Alors voilà ce que dit cette deuxième lettre qui est censée être donc écrite par la mère de l'inconnu. L'enfant, c'est sur deux lignes, das en haut, puis kind en deux, sur la deuxième ligne. L'enfant est déjà baptisé. Elle, alors que c'est un garçon, s'appelle Caspar. Un nom de famille, vous le lui donnerez vous-même. Si vous l'élevez, son père a été un chevau léger quand il aura 17 ans. Tout ça sans ponctuation. Envoyez-le à Nürnberg au 6e régiment de Chevauliche. Pour chevaux légers. Là aussi, son père a été, je prie de l'élever jusqu'à 17 ans. Il est né 30 avril de l'année 1812. Je suis pauvre fille et je ne suis pas nourrir l'enfant. Son père est mort. Vous voyez un peu cette espèce de charabia assez invraisemblable. Weichmann et Beck ne sont pas plus bêtes que la moyenne. Ils comprennent que tout ça, cette deuxième lettre en tout cas, est un faux grossier. Cela dit, ils sont maintenant avec un problème. Quoi faire de ce pauvre garçon qui a l'air tout angoissé, qui est là comme ça, hébété, incapable d'articuler trois mots? Alors ils décident, comme le demandait la première lettre, de le conduire chez le capitaine des chevaux légers. Il n'est pas là, le capitaine, cet après-midi-là. Il est à une fête. Vous avez bien compris qu'en ce lundi de Pentecôte, on festoie pas mal du côté de Nuremberg. C'est sa femme qui reçoit les trois hommes. Elle essaie de parler avec le garçon, mais elle comprend très vite qu'il n'y a rien à en tirer. Elle lui donne de l'eau, du pain noir, il saute dessus, il dévore littéralement. En revanche, il a repoussé avec des haut-le-cœur un morceau de viande et une chope de bière qu'elle lui avait proposée. Le garçon en question bâille à se décrocher la mâchoire, alors il a l'air tellement fatigué, elle le fait conduire aux écuries où une ordonnance de son mari va s'occuper de lui. Le gamin se jette littéralement sur la paille et il s'endort aussitôt. Quand le capitaine, il s'appelle le capitaine von Wessenig, rentre, il est furieux de toute cette histoire. Après tout, la lettre peut laisser entendre que le gamin serait son fils naturel, et c'est vrai que cet officier de cavalerie a une réputation plutôt légère, donc évidemment il ne peut pas se permettre de prendre ça trop à la légère. Il fait réveiller le garçon, il l'interroge sans plus de succès que les autres, et il le conduit au poste de police où on va de nouveau interroger le fameux Caspar. Alors, on tend au gamin une plume et du papier, et à la surprise générale, il est capable de tenir la plume et il va écrire quelque chose. Alors, il forme ses lettres K-A-S, on comprend qu'il écrit son prénom, Caspar Hauser. Ah, ben voilà, on lui a donc appris à signer de son nom.
Sur Europe 1 de la 8e symphonie de Schubert, Franck.
Alors je tiens tout de suite à dissiper une idée fausse qu'on a beaucoup véhiculée à propos de Caspar Hauser. On le présente toujours comme une sorte d'enfant sauvage, un petit peu comme cet enfant de l'Aveyron dont Truffaut devait faire un film, vous savez, une sorte de Mowgli ou de Tarzan à mi-chemin entre l'homme et l'animal. En fait, il n'en est rien. Caspar Hauser connaît certes assez peu de mots, entre 150 et 200 mots semble-t-il, mais il parle. Il ne sait signer que son nom. Mais il écrit. Il ne mange que du pain et de l'eau. Vous avez vu qu'il repoussait la bière, qu'il repoussait la viande. Mais il se tient à peu près correctement et il est à peu près propre. Il est mal habillé, c'est vrai, mais il ne se promène pas tout nu. La peau des plantes de ses pieds est très douce, comme celle d'un bébé, ce qui laisse entendre qu'il a très peu marché dans sa vie. Néanmoins, il se tient debout et il déambule tant bien que mal. Bref, on a affaire à un garçon très fruste, c'est vrai, pas éduqué, tout ce que vous voulez, mais tout de même habitué à certains comportements humains, sinon tout à fait sociaux. Reste l'énorme point d'interrogation de son origine. de sa provenance, de son passé. Là-dessus, évidemment, c'est le noir complet. Alors vous allez me dire, et alors ? Au XIXe siècle, il n'était pas rare de croiser des enfants ou des adolescents errants ou désocialisés. Ben oui, sauf que dans le cas présent, c'est la personnalité de ceux qui vont s'occuper de Caspar qui va sortir cet enfant-là de l'anonymat et en faire un véritable phénomène, en attendant même, disons-le, qu'il devienne une légende vivante. Le premier à s'intéresser vraiment à Caspar Hauser dès le début, c'est le maire de Nuremberg, un certain Binder, qui est un ancien juge. On voit que tout de suite, l'énigme l'intéresse. Il interroge patiemment Caspar pendant de très longues heures et de bribes de mots en scène mimées par le garçon, qui est assez cocasse pour tout vous dire, il se met à tirer un certain nombre de conclusions et bientôt, Binder en sera certain, Caspar a été caché parce qu'il est le rejeton gênant d'une grande, d'une puissante famille. Ah, ça change évidemment tout de suite la dimension du mystère. Il ne s'agit plus seulement de savoir d'où vient cet enfant des rues, il s'agit de se demander qui est son père, qui est sa mère. Et il semblerait que ce soit des gens très importants. On se met à rechercher tous les enfants de familles princières qui, entre 1810 et 1813, puisqu'on a vu qu'il avait environ 15 ans, auraient disparu dans des conditions troubles. Et c'est comme ça qu'on tombe sur la mort suspecte en 1812 d'un petit prince héritier de la cour de Bade. Évidemment, nous allons y revenir abondamment pendant toute cette émission. Binder confie le jeune homme à un professeur de Nuremberg qui s'appelle Georg Daumer. Et c'est un personnage assez étrange, Daumer. Il est très branché sur le surnaturel notamment, mais il se convainc, lui, très vite des dispositions médiumniques de Caspar, qui, c'est vrai, dispose d'une sorte d'hypersensibilité. En même temps, il lui prodigue une bonne éducation et on voit le vocabulaire du jeune homme croître dans des proportions incroyables. Il se tient très vite beaucoup mieux, il se met à marcher normalement ou presque, et en un an, on va voir Caspar apprendre à jouer du clavecin. En fait, ce qui se passe, c'est que Caspar est en train de rentrer dans la normalité. Encore 3 mois comme ça et tout le monde l'aura oublié. Oui, sauf que le 17 octobre 1829, on est là un samedi, Caspar est en retard à table, on le cherche un peu partout, on découvre dans l'escalier qui mène à la cave du sang et il est là, dans le bas, il raconte qu'il a été attaqué par un homme masqué. Alors là, s'il fallait un élément pour nourrir la légende, il est arrivé. L'enquête devient très importante, le roi Louis Ier de Bavière en personne se mêle de cette affaire, il procure à Caspar Hauser une protection policière, et puis peu à peu les choses vont rentrer dans l'ordre. Caspar est confié au conseiller municipal Bieberbach. Il va se faire oublier quelques mois, et puis le 3 avril 1830, encore un samedi, curieux incident, il essuie cette fois un coup de feu. Il est blessé près de la tempe. On décide de le confier au baron von Tucher jusqu'au jour où s'intéresse à lui un personnage fantasque extraordinaire, Lord Stanhope. Il n'en fallait pas plus pour que l'affaire Caspar Hauser se mette à passionner. Au-delà de Nuremberg et au-delà de la Bavière, toute l'Europe cultivée du temps, on peut dire que l'énigme Caspar Hauser est devenue le dernier jeu de société à la mode.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck qui rouvre aujourd'hui sur Europe 1 le dossier d'une très grande énigme, peut-être la plus grande énigme du 19e siècle, la très mystérieuse affaire Caspar Hauser.
Caspar Hauser a suscité l'attention d'un certain nombre de personnalités, le baron von Tucher notamment, mais surtout Lord Stanhope, qui a beaucoup d'argent, qui donc va en profiter pour mener l'enquête un peu partout. Il va jusqu'en Hongrie, il retire Caspar de chez Tucher et en décembre 1831, il l'emmène avec lui à Ansbach pour le présenter à un personnage très important, Anselm von Feuerbach, qui est le père du célèbre philosophe Feuerbach. Or, le 4 janvier 1832, le Feuerbach affirme que l'origine probable de Caspar Hauser est une origine princière. Je l'identifie, dit-il, comme prince de la maison de Bade. Alors là, l'énigme donc devient très importante. Il semblerait qu'il puisse être le fils de la grande duchesse de Bade, Stéphanie de Beauharnais, qui est une cousine du premier mari de notre Joséphine de Beauharnais, impératrice des Français, et que cette Stéphanie de Beauharnais avait épousé elle-même un prince de Bade. Or, nous explique Jean Mistler, la famille de Bade se trouva au début du XIXe siècle avec deux lignées, la première qui était la lignée normale des princes nés d'un prince et d'une princesse, et la deuxième qui n'était pas du tout illégitime comme on l'a dit parfois, mais qui était issue du mariage morganatique d'un grand-duc avec une de ses demoiselles d'honneur, la comtesse de Horberg. Or, il se trouverait que, pour des histoires de succession, pour des histoires de légitimité de ses propres enfants à succéder au grand-duc Karl Friedrich, cette madame de Horberg aurait pu vouloir faire disparaître les enfants de Stéphanie de Beauharnais, et c'est ainsi que le premier à avoir été substitué, on est bien sûr dans les suppositions, ce serait notre fameux Caspar Hauser. Vous imaginez, quand je vous dis que toute l'Europe s'intéresse à l'affaire, on peut dire que là, la gloire de Caspar est faite. Il serait l'enfant substitué de Karlsruhe. Et le plus fort, c'est que la grande duchesse elle-même se demande si après tout, il ne faudrait pas prêter foi à cette affaire. Elle veut voir l'enfant, enfin l'enfant, le jeune homme, elle fait le voyage jusqu'à Ansbach. Est-ce qu'elle le reconnaît? En tout cas, on dit que lorsqu'elle le voit passer devant elle, elle est prise de vapeur. Enfin bon, comme pouvaient le faire les grandes dames du XIXe siècle. Pour autant, la vie de Caspar n'en sera pas changée. Il faut savoir que Feuerbach père donc meurt sur ces entrefaites. Le tuteur qui s'occupe de Caspar à ce moment-là est un dénommé Meyer, et ce Meyer, lui, a de grands doutes sur son pupille. En fait, il le prend purement et simplement pour un imposteur. Alors, est-ce que Caspar Hauser était un enfant princier? Est-ce qu'il était un imposteur? Est-ce qu'on a d'autres pistes pour savoir qui il était? Nous allons voir ça. Pardon, nous allons voir ça dans un instant.
Je vous sers un petit verre d'eau.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, avec plaisir.
Avec mes invités. Il faut savoir que si Caspar Hauser n'était pas mort dans des conditions extrêmement mystérieuses, cette affaire, probablement, en dépit même des suppositions qui ont pu être formulées sur ses origines princières, cette affaire serait retombée, je pense. Mais il se trouve que dans cette affaire, on va de surprise en mystère et que la mort même, très jeune, de Caspar Hauser, vient nimber l'ensemble de son aventure d'un véritable voile de mystère. Je reçois Véronique Bergen, qui nous vient de Belgique, exprès pour cette émission. Merci beaucoup, Véronique, d'être ici. Vous êtes l'auteur de Caspar Hauser, ou La phrase préférée du vent. C'est publié chez De Noël et c'est un roman très inspiré, on va en dire un mot tout à l'heure. Et puis, Philippe Di Folco, Histoire d'imposteur. Alors, le fait que vous classiez... Bonjour, Philippe Di Folco. Le fait, c'est publié chez Vuibert, le fait que vous classiez Caspar Hauser dans Les Imposteurs laisse entendre que vous avez d'emblée un avis assez négatif sur le personnage.
Négatif ou positif, non, c'est oui, je le classe dans les Imposteurs, mais lié à l'enfance, et je rapproche d'ailleurs deux autres affaires qui sont présentes dans le livre, l'affaire de la princesse Carabou et l'affaire beaucoup plus récente du faux neveu Spielberg. Voilà, c'est... Effectivement, je pense que c'est lié à l'enfance, c'est lié à ces rêves que l'on fait, comme dans la chanson de David Bowie, si j'étais roi, si je nageais avec des dauphins, voilà, etc.
Ce qui est assez...
Voilà. C'est un peu psychologisant, donc je ne me contente pas de ça.
Ce qui est assez extraordinaire avec cette affaire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un rebondissement, bon, vous allez me dire c'est peut-être le simple hasard, mais il se trouve que c'est toujours un samedi. Caspar Hauser dans sa vie est attaqué trois fois, les trois fois c'est un samedi, et la troisième fois on est donc le 14 décembre 1833, donc samedi 14 décembre, oui. il rentre chez son tuteur, donc il s'appelle Meyer, il est complètement hagard, il a le souffle court, sa chemise est tachée de sang, il explique qu'il a été agressé, qu'on lui a remis une bourse dans laquelle se trouvait un document, un message. Alors le message en question, il est au moins aussi bizarre que les précédents, même peut-être encore plus, il est carrément...
Avec des trous.
Et avec des trous, on ne sait pas trop ce que ça peut bien vouloir dire. On va retrouver quand même et la bourse de velours violet et le message. Et surtout, la blessure du jeune homme est une vraie blessure, puisqu'elle va le conduire en très peu de temps à la mort, Véronique Bergen.
Oui, mais moi je crois que ce qui fascine justement, c'est l'indécision absolue. Et comme vous dites très bien, il y a eu, comme toutes les affaires, les faits divers. Pour moi, le fait divers Kaspar Hauser, parce que c'est un fait divers, c'est pas tellement un fait historique ni politique.
Mais c'est entré dans l'histoire,
c'est
on va
ça.
Dire.
Il fait sortir l'histoire de ses gonds. Et donc, il a cristallisé tout un mouvement, tout un inconscient collectif, parce que je pense qu'il a ranimé donc tous les ingrédients culinaires, je dirais, étaient là. Donc il y a la séquestration, l'enfant martyr.
Alors on va revenir sur tout ça, bien sûr. Disons un mot peut-être de cette mort étrange quand même. Il est blessé, c'est une blessure qui a priori ne paraît pas très grave,
légère,
mais néanmoins on est obligé de l'aliter. Et puis en 48 heures, il se met à délirer et il trépasse dans la foulée.
Oui. Peut-être avait-il décidé aussi de faire un final
C'est-à-dire que vous pensez qu'il aurait pu se blesser lui-même,
orchestrer une espèce de mise en scène.
Il s'est d'ailleurs planté, c'est le cas de le dire, parce que la blessure était beaucoup plus profonde, à mon avis, que voulu. C'est-à-dire il a pour attirer l'attention.
Ça a permis d'asseoir la légende, par contre.
Tout à fait.
Alors,
ce genre
de mort aussi, parce que pour tout vous dire, je suis de votre avis aussi, donc le débat va être vite clos sur le sujet. Je pense qu'effectivement,
il
s'est blessé lui-même pour attirer l'attention, parce qu'il avait l'habitude que l'attention soit focalisée sur lui et que peu à peu, il finissait par se marginaliser. Plus personne ne s'intéressait à lui. Il était chez ce meilleur qui finalement.
Qui le dit vaniteux.
Et qui ne l'aimait pas. Et donc, il avait besoin peut-être de l'amour et du regard des autres. Et donc, il se blesse un peu trop, puisqu'il va en mourir. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le petit mystère Kaspar Hauser. Mais il y a derrière tout ça le grand mystère. Le grand mystère, c'est celui de ses origines et de cette enfance mystérieuse. Nous y venons dans un instant.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Franck, qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 au cas Kaspar Hauser.
Alors, vous avez bien compris que la mort de Kaspar Hauser, loin de reléguer le personnage aux oubliettes des faits divers mystérieux, va lui donner cette part de fatalité qui nourrit les légendes désormais. Il devient un sujet de littérature et nous allons voir ça avec nos invités dans un instant. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire la petite ballade que Verlaine, le grand Verlaine, lui a consacrée. Je suis venu, calme, orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Ô vous tous, ma peine est profonde, priez pour le pauvre Gaspard. Cette complainte pose finalement la vraie question. Kaspar est-il né trop tôt ou trop tard? Si l'on met en avant le mythe et le mystère, je crois qu'il est né un peu trop tard. 3 ou 4 siècles plus tôt, en plein Moyen-Âge, son prestige aurait été immense. L'histoire médiévale, vous savez, regorge de ces enfants retrouvés, de ces rois cachés qui raniment constamment la légende. Kaspar avait tout pour emballer de telles époques. Mais au XIXe siècle, les esprits s'étaient un petit peu rassis. Ils ne devaient plus compter que sur le romantisme en vogue. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si tous ceux qui se sont de près intéressé à son histoire, ont partie liée au mouvement romantique. En revanche, si l'on privilégie la vérité, alors là, évidemment, Kaspar est né trop tôt. Il est possible de l'affirmer aujourd'hui, puisque nous disposons de ce test absolu dans le domaine, c'est-à-dire le génie génétique. Grâce à l'ADN, maintenant, ce genre de mystère ne peut plus vraiment avoir lieu. Quoique... En 1996, le magazine Der Spiegel avait financé une recherche ADN sur le cas de Kaspar Hauser. L'analyse à l'époque a été suivie par la presse du monde entier. Il se trouve qu'on possède au musée d'Ansbach les derniers vêtements portés par Kaspar Hauser, dont la fameuse chemise tachée de sang. Alors on a prélevé des échantillons de ce sang séché pour les comparer à des prélèvements effectués sur 2 descendants de Charles de Bade et Stéphanie de Beauharnais. Et à l'époque, le résultat s'est révélé négatif. Et puis voilà qu'en 2006, on recommence de nouvelles analyses et que cette fois, il serait, sinon positif, du moins encourageant. Cela nous renseigne sur ce que Kaspar Hauser n'est pas. Probablement n'est-il pas d'origine princière. Mais ça ne nous dit pas ce qu'il est. Certains ont dit qu'il était l'enfant abandonné d'un occupant bavarois du Tyrol, d'autres l'enfant d'un cavalier hongrois, certains disent même d'un prêtre qui avait défroqué. Enfin, évidemment, la question passionne les spécialistes. Je vous avoue qu'elle devient moins captivante dès lors qu'on perd les parents extraordinaires. Ce qu'il y a et ce qui reste de fascinant dans ce domaine, dans cette histoire, c'est le phénomène de rumeur, et non seulement de rumeur pour les autres, mais d'autosuggestion pour le personnage lui-même. Est-ce que finalement Caspar Hauser avait fini par croire lui-même à l'histoire qu'on racontait sur lui? C'est peut-être là qu'est le secret même de cette vie tellement triste finalement, et en même temps tellement fascinante.
Voici sur Europe 1 un extrait du concerto pour violon composé par Mendelssohn, Franck.
Alors Véronique Bergen, vous, c'est précisément cet aspect-là qui vous a le plus intéressé en quelque sorte. C'est la frange quasiment impossible à établir dans cette vie entre le rêve et la réalité, entre la réalité fantasmée et la réalité vécue finalement. On ne sait pas qui est Caspar Hauser, certes, mais lui-même ne le sait pas.
Mais effectivement, ce qui était fascinant pour un écrivain, c'est cette indétermination, aussi le fait qu'il a, oui, il a construit un personnage et qu'il n'a jamais réussi à s'insérer dans le monde des hommes. Parce que vous disiez qu'il n'était pas un enfant sauvage, non, rien à voir avec Victor l'enfant de l'Aveyron. Mais il y avait le doute, le point d'interrogation quant à ses origines, princières ou non, et le doute de son acquisition du langage. Donc ce n'est pas pour rien que Peter Handke et les écrivains vont s'en emparer, parce qu'on dirait presque, s'il n'est pas imposteur, s'il n'est pas donc un descendant de grandes lignées royales, il y a quand même le prototype d'un rapport quasiment autiste au monde. Une espèce d'inadaptation par rapport aux autres, peut-être due à sa séquestration aussi.
Deviner de cette enfance mystérieuse qui a été la sienne, visiblement une enfance très malheureuse et très isolée. C'était ce qui fascinait Françoise Dolto dans le cas de Caspar Hauser.
Oui, très malheureuse, mais en même temps, je me demande si on ne peut pas faire un retournement de balancier et de se dire qu'il y a ce qui a fasciné aussi à l'époque, c'est la violence de l'enfermement, chose qu'on retrouve dans le dernier roman de Régis Geoffrey, Clostria, où il y a aussi cette thématique de l'enfermement. Mais en même temps, quand on voit les écrits de Caspar Hauser, qui a quand même laissé certains textes, il y a une nostalgie de l'enfermement. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une autre violence plus grande qui est son irruption sur la scène du monde, le fait qu'alors ses pouvoirs magnétiques diminuent, son univers extrêmement autistique mais protégé, et donc c'est ça qui est fascinant aussi. Je pense que ce qui aurait dû être sa libération, la rencontre avec le monde des hommes, la rencontre avec le langage, a été une souffrance, a été une épreuve. Et donc, il regrettait quasiment sa geôle et l'homme noir et ce dont il venait, ce dont...
Mais Philippe Di Folco, ce qui est étonnant, c'est que finalement, toute l'histoire qui a été reconstituée de sa séquestration, de son isolement, etc., l'a été par des gens qui n'étaient pas d'une rigueur folle et qui ont largement interprété ce que lui-même racontait ou essayait de raconter.
Oui, c'était exact. Quand on retrouve Caspar Hauser, il y a ce Feuerbach qui interprète, qui surinterprète. Il y en a d'autres. Et très très rapidement, l'histoire est récupérée en fonction du statut des écrivains. C'est-à-dire, moi, je trouve que la plus belle, en dehors du roman de Véronique, la plus belle chose qui a été faite sur Caspar, c'est le film de Werner Herzog. Mmh. Bon, c'est un immense documentaire.
Qui est un questionnement sur l'identité.
Et c'est la clé, hein, c'est ce questionnement-là, c'est cette énigme. En fait, une énigme, c'est une question, mais aussi avec des réponses, hein, l'énigme. Bon. Là, moi, je trouve qu'on est dans un indéterminé, indéterminant même, c'est-à-dire qui continue. On est dans un flux qui nous porte et on n'a pas de réponse là-dessus. Qui sont les parents? d'où vient cet enfant? Et est-ce que cette histoire de géole et d'homme en noir, qui quand même ressemble à des, on dirait des invariants psychanalytiques, oui, qu'on retrouve dans les discours.
C'est des archétypes jungiens.
Les archétypes jungiens.
Je veux pas qu'on bascule dans la psychologie.
Quoi, enfin, non, mais on va
rester attentifs.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas les archétypes jungiens, disons que ce sont de grandes figures qu'on retrouve à toutes les époques, dans toutes les civilisations, dans l'esprit humain, tout simplement.
Et Franck, quand vous disiez tout à l'heure, le Moyen-Âge, les gens qui surgissent, etc., on a récemment, rappelez-vous, l'histoire de Pianoman. Il surgit sur une plage britannique.
Il y a combien, 7-8 ans?
7-8 ans. On a des
avec des ingrédients
tout à fait similaires.
C'était un peu le Kasparoser de notre époque. Ce qui a manqué à Pianoman, c'est une ascendance royale, peut-être, c'est ça? Est-ce que cette histoire de Stéphanie de Bade n'a pas finalement modifier le regard qu'on portait sur Kasparoser lui-même. C'est-à-dire que d'un questionnement sur l'identité, sur les origines, qui est un questionnement que nous avons chacun sur nous-mêmes, ça devient une énigme alors plus historique et presque policière, en fait.
Hein. Voilà.
Il y a eu un déplacement de projecteur. Oui. Quoique les psychanalystes se sont quand même fortement, Françoise Dolto et d'autres, intéressés à Kasparoser, parce que plus qu'une séquestration objective et extérieure, il y avait une séquestration intérieure. Mais la donnée un petit peu plus people de la lignée royale a peut-être occulté ce phénomène de souffrance et d'impossibilité de se constituer.
Ce qui est assez fascinant, c'est que Stéphanie de Bade elle-même, Stéphanie de Beauharnais, finit elle-même par y croire à cette histoire. Exact. C'est-à-dire qu'elle se dit, et si c'était mon fils qu'on m'aurait substitué? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que...
Il y a une hypnose collective, enfin une hypnose entre les protagonistes et relayée par une hypnose au niveau de l'époque.
Il faut dire quand même qu'au moment où meurt son premier fils en 1812, il meurt chez la nourrice et qu'elle ne le revoit pas quand même. Donc elle a dû rester sur une impression d'extrême frustration de maternelle. Elle n'a pas fait son deuil. Et là, on lui annonce 15 ans plus tard qu'on a peut-être retrouvé son fils. Elle veut le voir. Et quand elle se retrouve face à lui, elle s'évanouit, nous dit-on. Est-ce qu'elle s'évanouit parce que elle-même n'affronte pas toutes les zones d'ombre de son passé, ou est-ce qu'elle s'évanouit parce qu'elle le reconnaît? Elle reconnaît ses traits ou ceux de son père chez cet enfant. Il faut quand même dire que trois témoins dignes de foi ont reconnu très clairement les traits du grand-duc, enfin pas du grand-duc, mais de Carl Friedrich de Bade, dans ceux de Kasparoser, tout de même. Et puis alors, il semblerait que les dernières études ADN soient...
soit encourageante, favorable.
Oui. Donc finalement, ce qui est étrange, c'est que nous avançons dans le temps, dans les instruments de connaissance, et néanmoins, nous n'en savons pas davantage. L'énigme princière demeure, s'entretient, se perpétue sur l'affaire Kasparoser. C'est quand même assez étonnant. Nous en arrivons dans un instant sur ce que vous avez tiré, vous, de cette incroyable énigme.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Je suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin.
Moustaki sur Europe 1 avec Gaspard Franck.
Georges Moustaki, qui ne va pas bien et que nous saluons.
Et on embrasse très fort.
Du fond du cœur. Alors, cette affaire est une affaire qui nous interroge sur l'enfance elle-même, finalement. C'est cette dimension du souvenir d'enfance qui interroge chacun sur l'affaire Kasparoser, Philippe Di Folco.
Oui, parce que nous avons tous une enfance, nous penchons, à partir d'un certain âge, nous penchons sur notre passé. Le verbe est intéressant. Donc on a une vue comme ça vers des abysses, parce que chaque vie humaine est une toile mitée avec des trous. Il est impossible de restituer intégralement un récit de vie qui serait, voyez, minute, seconde par seconde. Donc déjà on a ça. Et c'est intéressant ces trous, parce que c'est dans ces trous, à mon sens, que certains imposteurs, et c'est pour ça que je dis que c'est, il y a une forme d'intelligence chez l'imposteur, à chaque fois une forme aiguë d'intelligence, c'est-à-dire capable, en changeant d'identité, en se servant d'outils, une boîte à outils colossale d'ailleurs, variée, capable de se réinventer et d'adopter une seconde peau. Et ça, c'est un désir aussi assez universel. Changer de vie, être soi-même, deux paradoxes.
Et puis la deuxième dimension fascinante du personnage et donc de l'énigme, c'est qu'on est quasiment sur un écran blanc sur lequel chacun projette ce qu'il veut. Voilà. Il y a là évidemment une machine à fantasmes, en quelque sorte, Véronique Bergen.
C'est une machine à fiction, et puis je crois aussi que Caspar Hauser, comme il est quand même au cœur de la question du langage, parce que même s'il a été séquestré, ça me semble clair, il est revenu parmi les hommes, mais il n'a jamais eu d'intégration véritable. Le rapport entre les mots et les choses était quelque chose de problématique. Et donc pour un romancier, je trouve que Peter Hanke l'a remarquablement bien explorer et exploiter, c'est presque la métaphore du poète, parce que Caspar Hauser présente le cas dans tout autre rapport au monde, c'est-à-dire que il avait un rapport animiste au monde, il avait des déterminants.
Pour lui, il y avait un esprit dans les choses,
c'est ça.
et dans la nature aussi.
Oui, les enfants ont généralement un rapport animiste. Le langage était quelque chose qui résistait. Il prenait les mots pour les choses.
C'est un excellent dessinateur.
Oui, il se demandait pourquoi est-ce que le mot chien ne mord pas, presque une réflexion philosophique à la Spinoza. Et donc, pour moi, Caspar Hauser métaphorisait vraiment tout le problème de l'entrée en humanisation. Qu'est-ce que l'acquisition du symbolique, et que perd-on en acquérant le symbolique?
Françoise Chandernagor a écrit à propos de Louis XVII un ouvrage sur cet enfermement de l'enfant et sur l'isolement d'une psyché enfantine qui se rapproche beaucoup finalement. Le cas de Caspar Hauser peut faire penser à celui de Louis XVII. Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est dans la même région et au même moment que vont surgir les Naundorff, Charles-Guillaume Naundorff, qui prétend être lui-même Louis XVII et avoir été l'enfant prisonnier du Temple. Alors, nous avons vu que probablement Caspar s'est infligé à lui-même cette blessure qui l'a finalement tué. Était-il un imposteur? Venons-en à ce terme, Philippe Di Folco. Est-ce qu'on peut le comparer à tous ceux? Alors là, vous, par contre, dans votre ouvrage qui s'appelle Histoire d'imposteur, il y a des vrais imposteurs, c'est le moins qu'on puisse
dire. Des rois.
Lui, c'était plutôt un petit prince dans le genre.
Oui. Mais je l'aime énormément, cette histoire, parce que on vient de le voir, elle nous touche tous, parce qu'il y a, on y trouve les bases, les matériaux de base. C'est-à-dire, quand vous parlez de séquestration, effectivement, on a cette figure dans les épopées où le jeune homme s'échappe sur les routes. Je pense qu'on est là, en fait. La vérité, elle est là. C'est-à-dire que Caspar s'est échappé. Je pense pas qu'il était en prison, qu'il était enfermé, mais il s'est construit. Il a commencé à écrire son scénario de vie. Nous avons tous en nous un roman. Un roman en devenir, nous sommes tous romanciers de notre vie. Ça, c'est pour moi une certitude. J'invente rien, je citerai Deleuze et Guattari un autre jour. Mais voilà, donc là, à partir de là, il y a des gens qui commencent à croire que le roman de soi est une réalité, vous voulez, c'est le paradoxe. Et puis il y en a d'autres qui bifurquent à un moment, qui sont rattrapés par la contingence, le fait de gagner sa vie, de rentrer dans la norme. Et je pense que Caspar ne veut pas rentrer, ne veut pas être mis en boîte. C'est-à-dire qu'il sort d'une boîte, il ne veut pas être mis dans une boîte. Pour moi, c'est clair. Donc, il est un imposteur au sens où il ne veut pas rentrer dans le rang. Voilà, c'est ça.
C'est un imposteur alors qui subit, parce qu'imposteur, normalement, implique une démarche consciente, cohérente, tandis qu'ici, il est plutôt dans une espèce de fragilité psychique.
En fait. Oui, mais il y a les fausses lettres au départ.
Oui, mais il est quand même
la
proie du chaos. Un imposteur, c'est quelqu'un qui est l'acteur, le réalisateur, le metteur en scène de sa propre vie. Donc, il décolle par rapport à lui-même. Lui, il est dans une espèce de trou noir, d'abysse.
Ce que votre roman traduit par une sorte de polyphonie. polyphonie c'est des ça. Points de vue, c'est assez passionnant.
Il y a une dissociation psychique chez Gaspard. Donc un véritable imposteur est dans une construction qui nécessite un ego et une constitution
on pourrait
subjective.
Dire qu'il est un imposteur malgré lui ou une victime de l'ennui de ces régions allemandes au début du 19e siècle.
Imposteur malgré lui, oui.
Véronique Bergen, Gaspard Hauser ou La phrase préférée du vent, c'est donc un roman chez De Noël et Philippe Di Folco, Histoire d'imposteur à la librairie Vuibert. Évidemment, vous ne consacrez qu'un de vos nombreux chapitres à Gaspard Hauser. Il y a là-dedans des personnages qui font même froid dans le dos. Merci beaucoup à vous deux d'être venus parler de ce personnage assez extraordinaire.